Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 4. L'Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 4. On va lire une dizaine de versets, mais c'est seulement une petite phrase qui va nous intéresser. Mais c'est bien de regarder dans quel contexte elle a été faite. Philippiens chapitre 3, verset 4. « Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu quant à la loi, pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul a écrit beaucoup de lettres dans le Nouveau Testament. C'est le principal écrivain dans le Nouveau Testament. Et quand il écrit ses lettres, il fait souvent allusion, référence à son expérience, à sa conversion. Et très souvent, il y fait allusion. Dans certains moments, il donne carrément son témoignage. À d'autres moments, il donne une partie de son témoignage. Il nous montre un aspect de son témoignage. Il y fait très souvent allusion. Et dans ce passage, à nouveau, tout en exhortant ses Philippiens et en les mettant en garde, il parle de son expérience, comment il est venu à Jésus-Christ. Et dans tout ce qu'il dit là, il y a une déclaration sur laquelle on va s'arrêter cet après-midi. J'ai été saisi par Jésus-Christ. Je voudrais qu'on s'arrête sur cette déclaration en se rappelant que Paul, ici, il parle de sa rencontre avec Jésus. En parlant ainsi, l'apôtre Paul fait ressortir quelques caractéristiques de sa conversion, des caractéristiques qui lui sont propres, mais en même temps, finalement, qu'on doit retrouver dans une certaine proportion dans toute conversion. D'abord, la première chose qui apparaît, en disant « j'ai été saisi par Jésus-Christ », ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa conversion a eu un commencement net. « J'ai été saisi par Jésus-Christ », ça veut dire qu'avant, je n'étais pas dans sa main. Il est devenu, il y a eu un démarrage. Et quand on connaît son histoire, on sait qu'auparavant, il en était très loin. Il ne l'était pas. Et un jour, sur le chemin de Damas, alors qu'il se rendait à Damas pour persécuter les chrétiens, pour les mettre à l'arrêt, là, il va rencontrer Jésus. Et à partir de là, ce sera le début de sa marche avec Jésus. Ce sera le début de la foi en Jésus-Christ. Ce sera le début de sa vie chrétienne. Sa conversion reste exceptionnelle par bien des aspects, notamment par le fait qu'il ait vu Jésus dans le ciel, qu'il l'ait entendu. Mais en même temps, sa conversion, elle est comparable à toute autre conversion, dans le sens qu'il y a une rencontre avec Jésus et il y a un démarrage. C'est important de s'arrêter sur cette pensée, parce que nous sommes dans un pays chrétien, dit chrétien, mais qui n'a pas grand-chose de chrétien, encore plus aujourd'hui. Mais souvent, je parle avec des personnes et elles pensent être chrétiennes. Et il faut leur expliquer qu'elles ne peuvent pas être chrétiennes sans le savoir, ou sans qu'elle l'ait décidé. Souvent, quand je parle avec des personnes, je leur pose la question : quelles sont les deux différences entre la foi évangélique et la croyance catholique ? Alors souvent, on me donne comme réponse, vous ne croyez pas en Marie, ou vous n'avez pas de pape. Je dis ça, c'est que les effets d'une différence. La première différence, elle est que dans l'Église catholique, ce qui a autorité, c'est la tradition. C'est le magistère de l'Église qui utilise la Bible, mais alors que dans la foi évangélique, ce qui a autorité, c'est la Bible. C'est la Bible qui va définir ce que nous croyons ou nous ne croyons pas. C'est elle qui va définir notre échelle de valeurs et qui va constituer la source de notre foi. Alors bien sûr, des fois, ça pose quelques difficultés, mais c'est la Bible. Et c'est comme ça qu'on va expliquer beaucoup de différences. Pourquoi nous baptisons que des adultes ou des adolescents et pas des enfants ? Parce que la Bible montre clairement qu'il faut croire avant d'être baptisé. Il faut une démarche, il faut pouvoir s'engager avec sa conscience. Pourquoi nous n'avons pas de pape ? Parce que dans la Bible, il n'y en a pas. Pourquoi nous ne prions pas Marie ? Parce que dans la Bible, Marie, elle n'est jamais priée. Et on pourrait comme ça. C'est la Bible qui a autorité. Et la deuxième différence est que justement, la foi, elle a un commencement. Je ne peux pas être né chrétien. Je ne peux pas avoir été chrétien toute ma vie. Mais il faut le devenir. Mais pour certaines personnes, ça veut dire souvent de prendre conscience que même si j'ai été baptisé enfant et que je ne m'en souvienne pas, je ne suis rien. Je suis qu'un pécheur perdu dans mes péchés. Et j'ai besoin de faire une démarche de conversion. J'ai besoin de me tourner vers Jésus-Christ. C'est faux de dire « j'ai toujours été chrétien », ce n'est pas possible. Je peux dire « j'ai toujours cru en Dieu », parce que la foi a quelque chose de naturel. Croire que Dieu existe, croire que Dieu a fait tout ce qui se trouve autour de nous, ça c'est normal. Par contre, on n'a pas toujours eu la foi en Jésus-Christ. À un moment donné, il a fallu entendre le message, entendre l'appel de Jésus-Christ. Et là, il y a eu une décision. Là, c'est la foi. Mais ce n'est pas la foi en Dieu qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Lorsqu'il y a cette démarche de conversion. Je vous avoue que c'est gênant quand on parle avec un chrétien évangélique et qui vous dit qu'il ne sait pas trop dire quand est-ce qu'elle est devenue chrétienne. C'est des fois gênant. Parce que même si on ne peut pas toujours mettre une date sur sa conversion ou sa nouvelle naissance, on peut mettre une période, comme l'a dit Rachel, elle sait qu'à 9-10 ans, là, il y a un changement net et clair. Peut-être qu'il était même à 6 ans, mais elle sait qu'il y a un changement qui est net, évident. À un moment donné, il y a eu. On a expérimenté le salut, on est devenu une nouvelle personne. Jésus est notre sauveur. C'est très important. Quand Paul dit « j'ai été saisi par Jésus-Christ », il montre et il nous dit qu'à un moment donné, il y a eu un démarrage, un commencement. Et j'espère que cet après-midi, ça sera le commencement pour quelqu'un. La deuxième chose que Paul nous dit avec cette déclaration « j'ai été saisi par Jésus-Christ », c'est que sa conversion, elle a quelque chose de soudain, de rapide, à la limite violent. Le mot qui est utilisé ici, « j'ai été saisi », on le retrouve dans deux déclarations dans le Nouveau Testament. Lorsqu'il est question de cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Vous vous rappelez ? Le mot « surprise », c'est le même mot, « saisi ». Ils l'ont attrapé, on se rappelle, ils l'ont traîné devant Jésus. Hein ? La loi nous dit de lapider cette femme, toi que dis-tu ? On sait comment Jésus a libéré cette femme. Vous voyez, il y a cette idée-là de soudaineté. Et puis, il y a un autre mot. Quand il y a ce papa qui parle de son fils, et il dit en quelque lieu qu'il est, l'esprit mauvais le saisit et l'agite. C'est ce même mot. Il y a donc bien l'idée de soudaineté, de violence. Et c'est vrai que l'apôtre Paul il a été saisi d'un seul coup. Comme on peut arracher un tison du feu. Je pense à un texte en disant cela. Lorsque Josué, dans le livre de Zacharie, comparé devant Dieu, il est revêtu de vêtements sales et Dieu dira, il est comme un tison arraché du feu. Un tison, vous savez, c'est quelque chose qu'on prend avant qu'il brûle complètement. Voilà ce que Jésus fait, il veut nous saisir, il veut nous arracher avant que ce soit trop tard. Et nous, ce n'est pas d'un feu, mais c'est carrément de la condamnation éternelle, d'un feu éternel. Voilà de quoi Jésus veut nous saisir et nous éviter. Si on avait dit à Saul de Tarse, le matin de sa conversion, tu vas devenir chrétien, il n'aurait pas à rigoler, hein, et il n'y aurait pas cru. Tellement c'est soudain, tellement il n'y pensait pas. Mettez-vous à sa place. Il est en route pour aller arrêter des chrétiens, et sur le chemin, il devient chrétien. C'est complètement... Paul, il n'était pas dans le pourquoi pas. On verra peut-être un jour. lui, c'était jamais de la vie. Ni, vous n'y pensez même pas. Vous approchez pas de moi. Il était un farouche opposant à la foi. Il le dit même dans le texte que nous avons lu, persécuteur de l'Église. Il était comme un inquisiteur, persécutant tous ceux qu'il pensait être hérétiques, alors que finalement c'était lui qui était à côté de la vérité. Il respirait la haine et la menace comme une bête féroce. Et à un moment donné, Dieu l'a saisi. Les conversions, elles sont toutes des choses particulières, mais elles ont toutes aussi des choses qui se ressemblent. Il y a quand même peu de conversions qui sont aussi soudaines, aussi imprévisibles que celles de l'apôtre Paul. Mais on en voit quelques-unes. Je pense à une personne un jour qui est rentrée dans l'église. Elle est venue voir parce que sa sœur s'était convertie à Jésus-Christ. Elle est venue voir, mais pour mettre le bazar. Elle s'assit au fond et le Seigneur a trouvé le chemin de son cœur. La première fois elle est venue avec de mauvaises intentions. Jésus s'est révélé, s'est tombé sur elle. Des fois, c'est toujours marrant ce genre de situation que Dieu provoque. On en connaît quelques-uns, mais reconnaissons que pour beaucoup d'entre nous, on a plutôt le sentiment que Dieu nous a poursuivis. Moi, j'ai l'impression que Dieu m'a poursuivi depuis mon enfance. Tout à l'heure, on a chanté, c'est dans l'Évangile qu'on trouve la paix, la joie, le bonheur. J'ai le souvenir d'avoir chanté ce cantique et de me dire pourquoi on dit c'est dans l'Évangile qu'on trouve du beurre. Pour vous dire l'âge que j'ai entendu ce cantique. J'étais enfant, j'ai entendu, je ne comprenais pas ce cantique. Mais j'ai l'impression que Dieu m'a poursuivi, moi, toute ma vie. Alors que je suis toujours admiratif de ces gens qui viennent une fois et ça suffit pour qu'ils découvrent la grâce. On a l'impression que c'est presque imprévu. Comprenons bien quand même que c'était préparé. Parce que derrière ce côté soudain et imprévisible et même violent, on comprend quand même qu'il y avait des choses qui se passaient dans le cœur de Paul. Rappelez-vous la déclaration de Jésus, « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Ça veut dire qu'il y avait des choses qui picotaient sa conscience. Qu'est-ce qui le picotait ? Oh, certainement le souvenir de la lapidation d'Étienne. Ça l'a marqué. Il est dit qu'il ressemblait à un ange. Qui a dit à Luc qu'il ressemblait à un ange ? Moi, je pense fortement que c'est l'apôtre Paul qui lui a dit. Il s'en est toujours souvenu. Il a vu cet homme sous les coups, sous les pierres et rester fidèle à Dieu. Ça l'a marqué. Il priait pour ses bourreaux. Et puis quand on lit Romains chapitre 7, où il exprime ses luttes dans sa conscience, d'ailleurs, on a du mal à emboîter Romains 7 avec le irréprochable selon la loi. Moi, pharisien, impeccable, irréprochable. Et en même temps, quand il parle dans Romains chapitre 7, il dit « Je voudrais faire le bien, mais je n'y arrive pas. » Il sent qu'il y a une loi qui est plus forte que la loi de sa bonne volonté, la loi du péché. Il sent que le péché est à l'œuvre. Mais tout ça, c'était au fond de son cœur, ce n'était pas perceptible. Mais c'était déjà là. La carapace est en train de se fissurer. Et à un moment donné, quand Jésus vient, c'est le moment pour saisir la grâce. Sa conversion restera soudaine. Il y a des choses. Mais j'aime bien, en tous les cas, ces conversions qui sont soudaines. Alors des fois, c'est à la fois soudain et pas soudain. Je pense à un jeune homme, il y a quelques années, lorsque je me suis converti, lui venait depuis des mois. Il venait depuis des mois, mais ça ne bougeait pas. Il venait le dimanche matin, dimanche après-midi, mais rien ne se passait. Et moi, je me rappelle, je me suis converti, je me suis embrayé, moi j'avançais, lui, il était toujours au début. Un petit peu comme s'il n'avait pas démarré la course. Et un soir, il était chez une sœur, il regarde des photos. Un dimanche soir, alors il avait fait le matin, il a fait l'après-midi, et c'est le soir que ça se passe. Il regarde des photos, et là, il se met à pleurer, convaincu de péché, bouleversé, mais se dit, mais lui, il est converti. Lui aussi. Et moi, je suis perdu. Et c'est là que le Saint-Esprit se révèle. C'est quand même étonnant. Alors, il y a quelque chose finalement d'assez... Il y a une préparation qui était là, et en même temps, il y a quelque chose de soudain. C'est assez étonnant. Toujours est-il que la conversion a souvent quelque chose de soudain. Je dis bien, on sait à peu près placer quand Jésus... Pour certains, ils peuvent mettre une date, un jour, et même une heure. Certains peuvent le dire. À tel jour, à telle heure, je suis devenu une nouvelle créature. Pour d'autres, c'est plus difficile, notamment pour ceux qui ont grandi dans l'Église et qui ont plusieurs expériences. Et parfois, la nouvelle naissance, elle se situe au niveau de l'enfance. Et ce n'est pas toujours évident alors de la placer dans son parcours. Troisième chose que je voudrais dire, sa conversion a été un bouleversement complet. tout a changé à partir de ce jour-là. L'expression « j'ai été saisi », ce n'est pas « ouh, j'étais touché hein. », c'est « j'étais bouleversé ». J'étais là et j'étais arraché, ma vie a changé. Quand une personne est saisie par Jésus-Christ, qu'elle découvre Jésus-Christ, sa vie est complètement changée. C'est tout qui change. Ce sont les valeurs qui changent. Ce sont les priorités qui changent. Ce sont les objectifs qui changent. C'est la manière de concevoir la vie qui change. Autrefois, il poursuivait les chrétiens. Maintenant, il veut vivre avec Jésus. Tout a changé dans sa vie. Son caractère a changé. La conversion, elle entraîne un changement profond au niveau du cœur. Et quand Paul dit « j'ai été saisi par Jésus-Christ », il veut aussi dire ça. « Ma vie a complètement changé à partir de ce jour-là ». C'est à ça qu'on reconnaît une conversion. Un jour, un homme érudit se moquait du Christ, de l'existence de Jésus, de son évangile, et il défiait quelqu'un de prouver l'existence de Dieu. Et toutes les personnes qui étaient présentes, aucune osait répondre. Et puis, une personne toute simple, à un moment donné, a dit « Avant moi, j'étais buveur. Avant, je frappais ma femme. Avant, je rentrais tard soir dans la maison, j'étais ivre et je menais un enfer à toute ma famille. Mais Jésus-Christ est venu dans ma vie. Aujourd'hui, je ne bois plus. J'ai été transformé. Je suis un autre époux. J'appartiens à Jésus-Christ. J'ai pu rendre mes enfants heureux. C'est Jésus qui a fait ça. » Le gars qui était là en train de... Le provocateur, il n'avait plus rien à dire. Eh oui. Je me suis souvent appuyé sur ce témoignage pour un témoignage. Vous savez, des fois, on parle avec des gens, puis ils nous prennent de haut, commencent à nous parler sur le plan de la raison, de la science. Alors quand je suis sur ce terrain-là, moi, je l'écoute. Je sais ce que j'étais avant, et je sais ce que Jésus-Christ a fait. Je sais quel sens il a donné à ma vie. Et chaque fois que je fais comme ça, et je dis ce que Jésus a fait dans ma vie, il y a toujours un silence après. Soit parce qu'il n'a plus rien à dire, soit même parce que ça atteint et ça touche le cœur. En disant « j'ai été saisi par Jésus-Christ », Paul nous dit aussi quelque chose d'important. C'est que sa conversion, elle est l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui a pris l'initiative. Ce n'est pas lui, finalement, qui a découvert Jésus-Christ. C'est Dieu qui l'a découvert. Ce n'est pas lui qui a saisi Jésus, même s'il le dit, et même s'il dira à Timothée, « Saisis la vie éternelle !» Mais c'est Dieu qui l'a saisi. C'est différent. Il a croisé la route, alors il n'est ni tombé de chameau, comme l'avait dit quelqu'un il y a quelque temps dans une prière, ni tombé de cheval. Il est tombé, il était peut-être à pied, on ne sait pas. Mais il est surtout descendu de ses grands chevaux, ça oui. Et il a découvert Jésus-Christ, le Sauveur. Mais saisi par Jésus-Christ, ça fait allusion que c'est Dieu qui l'a sauvé. Parfois, dans certaines conversions, on se rend compte que des personnes ont cherché longtemps Jésus et l'ont trouvé. Et c'est beau, j'admire toujours ces gens qui cherchent Dieu et qui arrivent à le trouver. Mais même dans ces conversions-là, ne perdons pas de vue que c'est Dieu qui provoque la recherche et c'est Dieu qui les saisit. Alors pour d'autres, c'est vraiment Dieu qui les a saisis là. Dieu s'est révélé. Quoique comprenons bien qu'ensuite, la responsabilité, c'est de chercher Dieu. Mais comprenons bien qu'une conversion à Jésus-Christ, c'est toujours l'œuvre de Dieu. C'est toujours l'initiative de Dieu, même si ça n'y paraît pas. Et on a un bel exemple dans la Bible, c'est Zachée. Zachée, il cherchait à voir qui était Jésus. Jésus passe à Jéricho pour la première fois et la dernière fois. Et Zachée, il cherche à voir qui était Jésus. Alors, je ne pense pas qu'il cherche à voir qui était Jésus parce que Jésus passe seulement. Je pense qu'il cherche à voir qui est Jésus depuis bien longtemps. Zachée était un péager. C'était un publicain. C'était des gens qui étaient méprisés, qui étaient détestés, considérés comme des pécheurs. Mais qu'est-ce qu'il avait entendu sur Jésus? Il avait entendu que Jésus, il faisait des publicains, des héros de ses paraboles. Jésus avait un autre langage avec les publicains. Il en avait même pris un dans son équipe. Zachée, il savait tout ça. Et ça faisait longtemps qu'il avait envie de voir qui était Jésus. Et maintenant que Jésus passe, il cherche à le voir. Il veut le voir. Alors, on ne le laisse pas passer. On connaît l'histoire, il est de petite taille. Alors, il calcule vite. Hop, il sait qu'il va passer près du sycomore. Il monte dans le sycomore. Jésus passe sous le sycomore. Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Dans cette parole, on comprend que Jésus est en mouvement vers Zachée. Et puis comment Jésus a conclu la rencontre avec Zachée ? Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Au début de l'histoire, on a Zachée qui cherche à voir Jésus. Et finalement, à la fin de l'histoire, on apprend que le Fils de l'homme, il est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Vous voyez comment ça se rencontre ? Et on découvre que même si Zachée, il y a une démarche, finalement, c'est Jésus qu'il cherchait. C'est l'initiative de Dieu. C'est un aspect important de la conversion. Quand on dit « j'ai été saisi par Jésus-Christ », Paul le dit bien dans le sens de ne pas oublier que sa conversion, c'est l'œuvre de Dieu. Pour ne jamais oublier que la conversion à Jésus-Christ, c'est cadeau, c'est une grâce de Dieu. Quand on se convertit à Jésus-Christ, ce n'est pas nous qui lui faisons un cadeau. C'est lui qui nous fait le cadeau de nous donner la vie éternelle. Et ça, ne le perdons pas de vue. L'apôtre Paul est devenu l'apôtre de la grâce, celui qui a expliqué la grâce, celui qui a enseigné la grâce. Pourquoi ? Parce que lui, il savait certainement mieux que beaucoup d'autres comment Dieu est venu le chercher. Et il a été saisi par Jésus-Christ. Il était pour rien. Il va devenir un homme remarquable, mais il sait que dans sa conversion, ce n'est pas lui qui est arrivé à quelque chose, c'est Dieu qui est venu le chercher et qui l'a saisi. Et jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie, dans la deuxième épître de Paul à Timothée, il est conscient que sa conversion, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Elle dira, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un homme orgueilleux, un homme violent, j'ai obtenu grâce, il dira. Il dira ce verset que j'aime beaucoup, c'est une chose certaine et entièrement digne d'être reçu que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, il ne perd pas de vue. Et elle dira, la grâce de Dieu envers moi a surabondé, je suis la démonstration que le Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il n'a jamais perdu de vue que sa conversion, c'est cadeau. Cet après-midi, Jésus veut saisir quelqu'un parce qu'il veut te sauver. Il ne veut pas que tu le perdes. Il ne veut pas que tu ailles en enfer, mais il veut que tes péchés soient pardonnés. La Bible dit que nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a que des pécheurs ici, mais la plupart ici savent que leurs péchés sont pardonnés parce que Jésus est venu. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas fait la paix avec Dieu et qui ont besoin de se tourner vers Jésus-Christ et de le recevoir comme sauveur. Et puis, un dernier point, sa conversion, et notamment avec cette parole « j'ai été saisi par Jésus-Christ », elle pointe vers une rencontre avec le Christ ressuscité. J'ai été saisi pas par un remords, pas par la nostalgie, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Je n'ai pas été saisi par un homme, je n'ai pas été saisi par un prédicateur, mais j'ai été saisi par Jésus-Christ. On raconte du temps de Charles Spurgeon qu'il y avait plusieurs grands prédicateurs et lorsqu'on avait écouté certains prédicateurs, on disait oh, « quel orateur formidable !» Mais quand on avait écouté l'évangile prêché par Spurgeon, on disait « quel sauveur merveilleux !» C'est par lui qu'il faut se laisser saisir. Il n'y a pas de conversion à Jésus-Christ sans la découverte de qui est Jésus-Christ. En fait, ce n'est pas la conversion, c'est Jésus. Il faut le découvrir. Regardons ce que Paul a découvert sur Jésus le jour où il l'a rencontré. On a son histoire dans Actes 9. Quand Jésus apparaît, il lui dira « Je suis Jésus que tu persécutes ». Il a découvert que Jésus-Christ était vivant. L'apôtre Paul Saul de Tarse persécutait les chrétiens. Pourquoi ? Parce que les chrétiens disaient que Jésus est vivant. Ils se présentaient comme les témoins oculaires de Jésus. Et lui, il voulait faire taire ce mensonge. Il était convaincu que c'était un mensonge. Parce que pour eux, si Jésus n'était pas ressuscité, c'était un imposteur. Bien sûr, il y avait cette rumeur qui était en fait une réalité. Jésus était vivant, il est ressuscité. Et mettez-vous à sa place sur le chemin. Celui qu'il déclarait mort, il le rencontre vivant. Il est bouleversé. Et à partir de là, il y a un changement radical. Christ est vivant, il lui est apparu vivant. Et même ça va changer pas mal de choses dans le discours sur la résurrection. Parce que jusque-là, les témoins, les apôtres étaient les témoins oculaires de Jésus. Ils parlaient de la résurrection d'une manière objective. Il est ressuscité, on l'a vu. Mais à partir de l'apôtre Paul, il parle d'une manière subjective. Je l'ai vu, je l'ai rencontré, il est vivant, il m'est apparu, il a changé mon cœur, il vit en moi. Et nous, on est témoins de de Jésus-Christ de cette manière-là aussi. Dans le sens qu'on l'a rencontré, il est vivant. Il l'a découvert. Il a découvert que Jésus, il est Dieu, il est Seigneur. Je suis Jésus. Je suis. On sait quelle résonance ça pouvait avoir pour l'apôtre Paul. Jésus s'identifie à son Église. Il défend les siens. Je suis l'Église que tu persécutes. Il défend les siens. Ceux qui lui ont donné la vie, il est là avec eux. Et puis, il lui fait prendre conscience aussi que c'est un pécheur. Je suis Jésus que tu persécutes. L'apôtre Paul pensait être dans son bon droit. Il pensait être du bon côté. Et il découvre qu'il est hors sujet. Complètement à côté, du mauvais côté. Il est perdu. Il prend conscience qu'il est perdu. Mais il prend conscience aussi que Jésus veut le pardonner. Et mieux, il découvre que Jésus a même un plan sur sa vie. Il a déjà projeté quelque chose. Voilà ce qu'il faut découvrir avec Jésus. Alors, il y a des choses qui sont toujours un petit peu différentes, mais dans toute conversion, il doit y avoir la découverte de qui est Jésus, ce qu'il a fait sur la croix, et la prise de conscience qu'on est un pécheur et que lui seul peut nous pardonner de nos péchés. S'il n'y a pas ça, il manque quelque chose dans une conversion, et il ne peut y avoir la nouvelle naissance. Je termine en disant simplement, Jésus veut saisir quelqu'un cet après-midi. Laisse-toi saisir. Oh, si tu t'accroches à ta chaise, il ne t'enlèvera pas. Mais si tu ouvres ton cœur, dis Seigneur, saisis mon cœur, pardonne mon péché. Viens saisir ma vie. On a entendu, un enfant peut être saisi cet après-midi. Un adolescent peut être saisi cet après-midi. Quelqu'un de plus âgé peut être saisi par Jésus-Christ. Mais quel bonheur quand on sait que Jésus a pardonné nos péchés et qu'il n'y a plus de condamnation sur nos vies, que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Il n'y a rien à faire, seulement une démarche de foi, de se tourner vers Jésus, de comprendre que Jésus a donné sa vie sur la croix.